Et c'est parti pour les Jeux paralympiques Beijing 2022. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin. Dominique Tremblay au sport est là pour nous en parler. Bonjour Dominique.
Bonjour, comment allez-vous, Aline?
Ben, ça va Hélène. Bien. Dominique, est-ce que vous étiez réveillé pour regarder la cérémonie d'ouverture?
Oui, j'ai assisté à la cérémonie d'ouverture à la télévision et sur Internet. Ça a été un beau spectacle.
Oui.
Dans le stade olympique de Pékin, qu'on appelle le Nid d'Oiseau. C'est un très beau stade, d'ailleurs, qui a été utilisé pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008. 46 pays ont fait leur entrée dans le stade, dont les athlètes canadiens qui étaient menés par Ina Forest et Graham Westlake. Forest qui est une athlète de curling et Westlake qui est un athlète de para-hockey. Les athlètes, pas beaucoup d'athlètes canadiens par contre, ont participé à la cérémonie d'ouverture puisque comme je l'avais dit hier, il y a trois villages paralympiques et les deux autres sont dans les montagnes à peu près à une heure de train de Pékin.
Ouais.
Et comme la plupart des athlètes compétitionnent déjà demain, le trajet était trop long et trop fatigant pour que ces personnes-là assistent à la cérémonie d'ouverture. Mmh. Mais ils l'ont évidemment regardé devant leur écran à leur village respectif.
C'est quand même dommage, hein, qu'ils ne puissent pas participer à la cérémonie d'ouverture.
Je vous dirais que je l'ai fait, j'ai participé à deux cérémonies d'ouverture, en fait, trois cérémonies d'ouverture, deux comme athlète et un comme personnel de médias.
Mm-hmm.
Et c'est quand même une expérience qui est assez épuisante. On arrive des fois 2 à 3 heures avant le début de la cérémonie. On attend dans un endroit. Un stade, en dessous du stade.
C'est beaucoup d'énergie, là, beaucoup d'attente.
Beaucoup d'énergie. On est debout pendant longtemps, on voit pas grand-chose. Après ça, on rentre dans le stade, on va s'asseoir, et puis on regarde des discours ou un spectacle. Puis après ça, faut retourner au village. Mais comme il y a 900 000 athlètes aux Jeux paralympiques d'hiver, ça se règle pas en 15 minutes, là. Ça peut être long des fois avant qu'on retourne au village. Donc, ça fait une très longue soirée. Et quand on compétitionne le lendemain, on est un peu fatigué. Puis la priorité numéro un pour un athlète, c'est de bien performer. Les cérémonies d'ouverture, c'est pratique, mais c'est pas le spectacle. Participer à un spectacle, c'est pas la priorité numéro un.
Non, mais j'imagine qu'ils seront tous au rendez-vous pour la cérémonie de fermeture. Est-ce que ça sera
oui,
le cas?
La cérémonie de fermeture, c'est vraiment plus un party que d'autres choses. On est là pour s'amuser, célébrer nos victoires ou nos performances, puis de s'amuser avec nos amis d'un peu partout, puis de profiter du moment parce que après ça, c'est fini, puis on retourne à la maison, puis on passe pour un autre cycle de 4 ans.
Bien oui, puis ça fait un beau spectacle pour ceux qui regardent ça à la télévision. On veut les voir, nos athlètes.
C'est ça.
Alors, parlant d'une athlète hors norme, Frédérique Turgeon, elle n'est vraiment pas chanceuse.
Non, elle voulait participer. Bien, elle était supposée participer à ses deuxième Jeux paralympiques. Elle pouvait avoir des chances de gagner des médailles, mais en entraînement hier, elle est tombée et a subi une grave blessure. C'est écrit, elle n'a pas eu de casse, de fracture, ni de ligament déchiré, mais ça va quand même l'empêcher de faire du ski pour les prochains 3 à 4 mois. Donc, elle est déjà dans l'avion pour retourner au pays et au lieu de participer à la compétition et d'encourager ses coéquipiers, elle va être obligée d'encourager ses coéquipiers à la maison devant son petit écran comme nous on va le faire passionnément au cours de la prochaine semaine, du jour de compétition.
Alors, elle va vivre une autre sorte d'épreuve, finalement.
Une autre sorte d'épreuve, puis on espère qu'elle va y aller pour un autre cycle de 4 ans, parce que c'est quand même une très bonne athlète.
Bon, on lui souhaite ardemment. Dominique, en terminant, ben, les compétitions à venir, il y en a beaucoup?
Ben oui, ça commence dès 9h ce soir, heure de Montréal, avec la descente mais comme en sport paralympique, il y a de la classification. Mm-hmm. Il y a 3 événements chez les hommes et 3 événements chez les femmes en descente, dont un pour les athlètes qui ont une déficience visuelle. Ils sont soit complètement aveugles ou une déficience visuelle minime. Ils sont tous regroupés ensemble et ils ont un coefficient qui est ajouté à leur temps, dépendant de leur handicap, pour que ce soit plus équitable pour tout le monde. Et à la fin, il y a juste une médaille dans cette catégorie-là qui est offerte. Est-ce que j'ai bien expliqué? Est-ce que c'est clair ou un petit peu plus de détails? Parce que des fois, c'est pas facile à comprendre, la classification.
Non, c'est pas facile à comprendre, mais vous êtes assez bon pour nous expliquer les choses. Vous êtes un bon pédagogue, mais si vous voulez nous donner plus de détails, on a encore du temps.
OK, donc, on va passer à un autre. Les hommes, pour une déficience physique, il y a des athlètes qui skient debout, il y en a d'autres qui skient assis.
Oui, oui.
Et c'est la même chose. Il va y avoir des athlètes qui ont soit la paralysie cérébrale, il y a différents degrés de paralysie cérébrale, de gravité de paralysie cérébrale. Mm-hmm. Il y a différents types d'amputations aussi. Tu peux manquer un pied, un genou, la jambe au complet, deux jambes, mais ils vont mettre un coefficient, un pourcentage. Donc, si je prends une minute pour descendre la pente et que moi, il me manque juste un pied et qu'un autre compétiteur, lui manque une jambe, ben, par exemple, ils vont lui donner 95% de son temps va compter pour le classement final. Donc, ça va lui permettre d'équivaloir à mon temps à moi.
Alors, toute cette analyse est faite avant le début des compétitions, j'imagine.
Le pourcentage, donc les classifications sont données au moment où l'athlète participe à ses premières compétitions internationales. Et le pourcentage est connu avant le début de la course. Et le temps qu'on voit à l'écran est le temps ajusté et pas nécessairement le temps réel.
Ah, oui.
Donc, le temps ajusté nous permet de voir, rendu en bas, qui gagne ou qui ne gagne pas la course. Et on n'aura pas besoin d'attendre, il faut là, qu'ils calculent, puis voient. Puis... Non, tout est fait automatiquement par ordinateur et on peut voir qui a gagné. Pour le simple spectateur, on ne se rend pas vraiment compte du pourcentage qui est donné au temps d'un athlète ou à un autre. On le voit pas, ça se fait automatiquement.
Et cette classification est bien vue par tous les athlètes? On trouve que c'est un traitement juste?
Comme dans n'importe quelle chose, il y en a qui sont plus avantagés que d'autres. C'est pas un système qui est parfait, mais c'est le système qui existe en moment. Et en ce moment, c'est sûr qu'il y a des modifications qui se font à chaque année, à chaque cycle de 4 ans. Et c'est juste une question de profondeur, de nombre d'athlètes qu'il y a dans chacune des catégories. C'est pas facile d'avoir assez d'athlètes pour être capable d'avoir 9 différentes catégories ou 9 différentes courses. Et aussi, ça deviendrait vraiment long d'avoir 12 ou 15 finales de descente dans une journée. Donc, c'est pour ça qu'ils rendent ça mettent les groupes de classification ensemble pour rendre ça un petit peu plus facile pour le spectateur à comprendre. Mais il y a certains athlètes qui sont un petit peu désavantagés, mais ça fait partie de la chose. C'est un peu le même genre de principe au judo ou à la boxe. Quand tu vas être le plus proche possible du maximum du poids de ta catégorie, parce que si tu te bats, par exemple, si vous en boxe, vous pesez 75 livres, ben si tu es plus léger, ben tu vas être désavantagé par rapport à quelqu'un qui est plus pesant. Donc, mm-hmm. C'est pour ça que c'est le même type de système qu'un système de poids en judo ou en boxe.
Très clair. Et en terminant, il reste une petite minute, Dominique, peut-être un ou deux athlètes à surveiller en fin de semaine?
Ben Mark Hartz en biathlon devrait gagner certaines médailles. Brian McKeever va compétitionner pour la première fois à samedi. Et si vous aimez ça, veillez tard, je vous suggère d'écouter ce soir ou mettons à 11h30, minuit, le match de para-hockey entre le Canada et les États-Unis.
Bien, merci pour toutes ces informations, ces suggestions. Bon jeu, puis on se retrouve lundi, 10h30. Merci, Dominique Tremblay.
Merci, bonne fin de semaine à vous.
Bye.